Et bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous continuons notre aventure ici sur l'étude de la parole de Dieu. Et pour les premières présentations axées sur la santé, le message de la santé, le titre de la méditation de ce soir, c'est « Veux-tu être guéri ?». Encore une fois, je vais vous inviter à vous mettre à genoux avec moi si vous pouvez, puis ceux qui ne le peuvent pas, courbez la tête pour la prière et nous allons rentrer dans la méditation de ce soir. Notre Père, notre Dieu, tu nous poses la question à savoir si nous voulons être guéris. Et certainement, nous allons répondre oui à cette question. Mais parfois, nous ne sommes pas toujours prêts à faire ce qu'il faut pour que nous puissions vraiment être guéris. Nous mettre notre volonté du côté de ta volonté. Permets que ce soir nous puissions méditer sur ta parole et comprendre comment nous pouvons faire, Seigneur, pour être guéris et nous souvenir que c'est en toi que se trouve toute guérison, puisque c'est toi qui es la source de la vie. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ok, veux-tu être guéri? Un peu comme la première présentation, juste à l'exception d'hier où il y avait des choses affichées, où vous aviez juste à regarder l'écran. Aujourd'hui, je vous demanderai, comme vendredi, d'avoir vos Bibles. Nous allons regarder plusieurs versets afin que vous puissiez me suivre dans notre présentation. Donc, le premier texte se trouve dans le troisième épître de Jean, chapitre 1 et le verset 2. Donc là, ce n'est pas l'évangile selon Jean, le troisième épître de Jean, chapitre 1 et le verset 2. Vous y êtes? 3 Jean 1, verset 2. Vous y êtes? Ok. C'est écrit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc si on parle de la santé. Mais l'autre partie, ça dit comme prospère l'état de ton âme. Donc, je veux que tu sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Donc, la fin du verset, là, comme prospère l'état de ton âme, nous indique que la volonté ici de Jean, en parlant, la volonté de Dieu qui parle à travers cet apôtre, c'est que la santé soit proportionnelle à notre qualité de vie spirituelle. Est-ce que vous voyez tout ça dans le verset? Parce que ce n'est pas dit « je veux juste que ta santé prospère et puis que ta spiritualité prospère », mais c'est dit « je veux que ta santé comme prospère l'état de ton âme ». Donc les deux doivent évoluer de manière proportionnelle. On ne peut pas être un serviteur de Dieu, selon le verset que l'on lit, dire qu'on est membre d'église, de dire qu'on croit en Dieu, etc. Donc de travailler juste sur le spirituel et de ne pas prendre soin de notre corps. Les deux doivent aller ensemble, santé et spirituel, du moins pour tout ce qui dépend de nous. Maintenant, lorsque Dieu nous a créés, un peu comme on l'a vu au début, mais on va revenir là-dessus, il nous a créés avec plusieurs dimensions. Allez cette fois dans Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse chapitre 2 et le verset 7. C'est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc ici, nous avons les trois éléments qui nous constituent, les trois choses qui font que nous sommes une personne complète. La première chose, c'est que nous avons été créés de la poussière de la terre. La deuxième partie, c'est que Dieu a mis en nous le souffle de vie. Et le troisième élément, c'est que cela, la combinaison des deux a donné un être vivant. Donc nous sommes poussière, plus le souffle de vie, et les deux ensemble donnent un être vivant. Ce sont les trois dimensions de la personne humaine. Poussière, c'est le physique. Souffle de vie, ça vient de Dieu, c'est surnaturel, c'est le spirituel. Et finalement, un être vivant, c'est le mental, parce qu'on a les deux, on a les deux, donc on peut être un être qui réfléchit, nous sommes une créature vivante. Donc nous avons une dimension physique, nous avons une dimension spirituel et nous avons une dimension mentale. Ce sont les trois ensemble qui font que nous sommes un être complet. Maintenant, nous avons besoin des trois. Nous ne sommes pas. C'est pas comme si l'être humain est les trois séparés, comme les gens pensent beaucoup dans des religions de l'Asie ou New Age, où on sépare les trois. Mais ce que je vous présente ce soir, ou ce que la Bible nous présente ce soir, c'est que les trois sont interreliés. C'est impossible de les dissocier, sinon ça ne donne pas la personne que nous sommes. Mental, physique et spirituel. Maintenant, il y a différents corps professionnels que l'on va voir pour résoudre différents problèmes. Par exemple, il y a les professionnels qui sont appelés des psychiatres et les psychologues qui œuvrent à peu près dans la même, dans le même domaine. Il y a le médecin plus généraliste ou chirurgien, etc. pour vraiment qui vont plus toucher votre corps. Et il y a le pasteur. Chacun de ces trois corps que j'ai mentionnés touche une partie de qui nous sommes. Si nous sommes vraiment malades au niveau mental, qui est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le psychiatre ou le psychologue. Le psychologue quand ça va bien, puis le psychiatre quand on a perdu la tête et puis qu'il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de nous. Si jamais ça ne va pas bien au niveau physique, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir le médecin, parce que c'est là sa spécialité, il va essayer de guérir la maladie. Puis si c'est un très bon médecin, il va trouver la cause de la maladie. Et finalement, si on a un problème spirituel, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le pasteur, parce que c'est lui qui est spécialiste dans la spiritualité, il va essayer de trouver comment est-ce que notre âme peut aller meilleure, comment est-ce que notre spiritualité, nous pouvons être meilleurs. Mais la triste réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est que souvent c'est trois corps de profession, les psychologues, les médecins et les pasteurs, ils ne sont pas d'accord, ils ne disent pas toujours la même chose. Ça fait que les gens sont toujours malades. Parce que la personne, ce n'est pas juste le mental, ce n'est pas juste le physique, ce n'est pas juste le spirituel, c'est les trois en même temps. Mais si les différents professionnels disent des choses différentes, comment est-ce qu'on peut être en bonne santé? La réponse, bien sûr, pour nous chrétiens, c'est la personne de Dieu ou la personne de Jésus, qui incarne toutes ces choses, qui incarne tous les différents aspects que nous devons avoir pour être des êtres équilibrés. Jésus n'est pas seulement un psychiatre ou un psychologue, mais il est appelé dans la Bible le grand conseiller. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9 et les versets 6, on donne différents qualificatifs de ce Messie qui devait venir, et l'un de ceux que l'on donne, c'est que ce serait le grand conseiller. Il n'est pas seulement un médecin, mais c'est aussi celui qui donne la vie lorsque les gens sont même morts. Et il n'est pas seulement quelqu'un qui prêche, mais c'est celui qui sait ce qui est au-dedans de l'homme. Parce que Jésus, on n'avait pas besoin de lui dire ce qui se passe dans le cœur, ce que les gens pensent. Donc lorsqu'il voulait toucher quelqu'un, il savait c'était quoi la pensée, il allait droit au but. Et donc c'est seulement lui qui peut entièrement guérir. Maintenant, je fais une petite application spirituelle parce que ça ressemble à ce qu'est l'Église. Donc on a dit l'homme, l'être humain, c'est la poussière plus le souffle de vie, et ça, ça donne un être vivant. Donc physique plus spirituel donne mental, l'être vivant. Le corps de l'Église fonctionne de la même façon. Par exemple, là, nous sommes l'Église adventiste du septième jour. Nous avons aussi ces trois éléments que l'on retrouve. Il y a le corps, le physique qui est l'Église. Ensuite, il y a la partie spirituel qui est le message que Dieu a donné à l'Église. À l'Église, nous prêchons spécialement le message des trois anges. Donc ce corps de croyants, plus ce message spécifique spirituel que Dieu a donné, donne quoi à la fin? Des êtres vivants qui vont pouvoir subsister quand Jésus va revenir, ou les 144 000. Si on prend juste l'Église et on enlève le message spirituel, eh bien ça donne une Église morte, parce qu'on ne peut pas être vivant lorsque Jésus va revenir et pouvoir subsister en sa présence. Il faut que ces deux éléments aillent ensemble pour que Dieu puisse produire le fruit qu'il veut, c'est-à-dire que nous soyons prêts pour son retour. Aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et le verset 3, j'aimerais que vous regardiez ça, Apocalypse chapitre 7 et le verset 3. Apocalypse chapitre 7 et le verset 3. Apocalypse chapitre 7 et le verset 3. C'est écrit, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc ça, c'est les personnes serviteurs de Dieu à la fin qui peuvent subsister quand Jésus revienne parce qu'ils ont fait partie du corps, mais ils ont intégré ce message spirituel. Et si vous remarquez bien, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont scellés, qui reçoivent le sceau sur le front. En d'autres mots, ce sont ceux qui sont au service de Dieu, qui sont actifs pour gagner d'autres âmes. Donc si un membre d'église est juste quelqu'un qui est là, qui vient, qui paye sa dîme et ses offrandes, qui fait juste écouter quelqu'un et puis partir, la personne n'est pas un serviteur. Parce que la personne n'œuvre pas à gagner d'autres âmes pour Dieu. Et donc la personne ne peut pas être scellée. C'est vraiment le fait d'être actif, le fait de chercher à emmener d'autres personnes à Dieu qui fait que nous sommes des serviteurs. Et dans ce processus, nous sommes maintenant complets avec le physique, le mental et le spirituel. C'est Dieu seul qui guérit. Et Dieu guérit par ses instructions. Nous allons voir un exemple concret, mais juste avant, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. C'est écrit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est le mental, de toute ton âme, c'est le spirituel, et de toute ta force, c'est le physique. Donc les trois aspects ici sont décrits dans ce verset. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a œuvré pour grandir, pour devenir la personne qui a accompli son ministère, on décrit que la croissance de Jésus est décrite dans Luc chapitre 2 et le verset 52 avec les mots suivants. On dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Il croissait en sagesse, ça c'est le mental. Il croissait au niveau physique, ça c'est en stature. Et il croissait en grâce, ça c'est le spirituel. Donc, pour qu'il devienne l'homme qui a changé le monde en 3 ans et demi, c'était quelqu'un qui s'est développé harmonieusement sur ces trois aspects de la personne. Maintenant, j'ai dit, c'est Dieu seul qui guérit, et Dieu guérit lorsque nous recevons ses instructions. C'est sa parole qui guérit, et sa parole seule. Maintenant, allons dans le texte d'où on tire le message de ce soir, qui est dans Jean chapitre 5, et on va rester un peu là-dessus. Jean chapitre 5, à partir du verset 2. Évangile selon Jean, chapitre 5, à partir du verset 2. Jean chapitre 5, à partir du verset 2. C'est écrit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. » Donc ici, il y a 4 catégories de personnes. Il y a des malades, il y a des aveugles, il y a des boiteux et il y a des paralytiques. Ils sont tous en train d'attendre le mouvement de l'eau. Pourquoi ? Au verset 4, c'est écrit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri. » Donc celui qui est sur lequel l'histoire va se concentrer ici, il est dans quelle catégorie lui? C'est un. On dit il y a des malades, il y a des paralytiques, il y a des aveugles, il y a des boiteux. Lui c'est un? Non. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Donc lui c'est un malade. Dans le livre Jésus-Christ, là, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, qu'il y a un livre qui s'appelle Jésus-Christ, que je pense qu'ils sont des commentaires inspirés de la Bible, je suis allé voir, j'ai lu cette histoire qui est commentée. Et un élément que l'on ne voit pas ici, mais qu'on voit dans beaucoup d'autres histoires, lorsque Jésus guérit des gens qui sont malades ou dans d'autres catégories, c'est que souvent ces gens sont dans cette situation à cause des choix de leur vie. Cette personne était malade depuis combien de temps ? 38 ans, c'est énorme, non? 38 ans. Il y a de quoi vraiment perdre espoir d'être guéri. Mais il était là, à cette piscine de Bethesda, en attendant d'être guéri. Imaginez, là, on est une église, s'il y avait, je sais pas, dans la cour arrière, une piscine, où on savait que, de temps en temps, il y avait un ange qui venait, puis qui agitait l'eau, et toutes les personnes qui venaient là pouvaient être guéries lorsqu'elles lorsqu'elle touche cette eau, qu'elle rentre dans cette eau. Combien de personnes est-ce qu'il y aurait ici? Il y aurait tous les gens qui sont dans les hôpitaux à Montréal, et même plus, d'autres villes qui entendraient le message et qui viendraient. Donc imaginez le nombre de personnes qu'il y avait là, parce qu'ils avaient cette croyance que si tu touches, si tu rentres dans cette eau lorsque l'ange l'agite, tu vas être guéri. Donc dans le livre Jésus-Christ, celui qui écrit le livre dit que cet homme, il était malade à cause de ses péchés, il avait fait des choix de vie qui l'avaient emmené dans cette situation, ce n'était pas un hasard. Et là, ça faisait 38 ans qu'il était en train de subir les conséquences de ses mauvais choix. Et c'est dans ce contexte que Jésus vient et lui parle, et que maintenant ça va devenir vraiment personnel pour lui. Jésus arrive au verset 6, écrit « Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit « Veux-tu être guéri ?» Question pour vous, est-ce que cette question fait même du sens? Tu vois quelqu'un qui est malade là, tu vois toutes les personnes qui veulent rentrer dans l'eau, puis Jésus il vient et puis dit « Veux-tu être guéri ?» Ça veut dire quoi sa réponse à votre avis? Bien sûr, je vais être guéri. Tu vois pas que je suis là et puis j'attends de pouvoir rentrer dans l'eau. C'est que pourquoi est-ce qu'il pose la question? Pourquoi il pose la question? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Bien sûr, il veut être guéri, mais il pose la question. Je n'ai pas entendu. Oui? Pour que la volonté intervienne. Merci, ma sœur. Dieu ici, il est en train de manifester son caractère, comment il fonctionne. Même s'il sait que quelque chose est bon pour toi, il ne va pas le forcer sur toi si tu ne veux pas. Donc il vient et il demande, veux-tu être guéri, de manière à ce qu'il exprime sa volonté. Et maintenant, la volonté de ce malade et celle de Dieu vont être communes et ça va se réaliser. On peut désirer beaucoup de choses. On peut désirer une belle carrière, on peut désirer d'être guéri. On peut désirer famille, enfants, on peut désirer beaucoup de choses, mais si notre volonté n'est pas en harmonie avec celle de Dieu, ça ne peut pas se réaliser. De moins, pas de manière miraculeuse. Ça peut peut-être être comme cet homme qui, il y a 38 ans, a fait des mauvais choix pour essayer d'accomplir ses désirs, et maintenant on subit les conséquences. Mais là, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et il répond, bien sûr, oui, mais il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. Ça, c'est la première chose. Il veut que la personne exprime sa volonté. Donc, pour que nous puissions expérimenter être complètement guéri, pas juste partiellement, il faut qu'on exprime notre volonté envers Dieu. La deuxième chose du caractère de Dieu qui est manifestée ici, c'est que bien que c'était la conséquence de son péché, Jésus n'a fait aucun sermon sur ce qu'il a fait de mauvais. Il n'est pas venu lui dire, écoute, mon ami, il y a 38 ans, tu as fait telle chose, est-ce que tu regrettes, hein, tu regrettes? Il n'a fait aucune mention de ce qu'il a fait dans le passé qui l'a emmené là. Il est juste venu pour le guérir. Donc, sa part à lui était comme un film, c'était juste de coopérer, de manifester sa volonté. Et c'est la même chose que Dieu nous demande aujourd'hui. On a vu dans les présentations précédentes qu'on peut être dans des très mauvaises situations au niveau de notre santé à cause de nos mauvais choix. Mais l'essentiel, c'est est-ce qu'on est prêt maintenant à suivre les instructions? Est-ce qu'on est prêt maintenant à suivre la volonté de Dieu? Dieu ne va pas nous rappeler qu'est-ce qu'on a fait de mauvais. Ça ne sert à rien. Tu es dans cette situation, de toute façon, je vais t'aider à t'en sortir. L'autre question qu'on peut se poser, quand je lisais cette histoire, je me disais, est-ce que c'était la volonté de Dieu que... Est-ce que c'était la méthode de Dieu de soigner les gens avec un ange qui vient agiter l'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était un ange du Seigneur? C'était un ange du Seigneur? Dieu envoyait un ange du ciel qui venait agiter l'eau pour guérir les gens. Est-ce que vous pensez que c'était la méthode de Dieu, ça? J'ai entendu des noms. Effectivement, mes amis, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit un peu plus loin, au verset 4, c'est écrit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. » Et celui, l'expression, c'est « Et celui qui descendait le premier » après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Cette expression, celui qui descendait le premier. Donc imaginez là, les gens croient qu'ils vont être guéris. Donc il y a, je ne sais pas combien de centaines de personnes, peut-être milliers, je ne sais pas que c'était grand comment, la piscine de Bethesda. Et ils se bousculent pour pouvoir toucher, rentrer dans l'eau lorsque l'ange va agiter. Et celui qui arrive le premier, donc c'est un esprit compétitif, n'est-ce pas? C'est le plus fort qui va être guéri. C'est que si moi, j'ai juste, exemple, mon bras qui ne marche pas, mais toi tu es paralytique, ben c'est sûr je te piétine et puis je plonge dans l'eau, puis bon, mon bras va être en bonne santé. Donc cet esprit de compétition là, c'est pas Dieu qui est derrière ça. Dieu n'est pas dans la survie du plus fort. Dieu n'est pas dans la sélection naturelle, comme la théorie de l'évolution, que c'est le plus fort qui survit. Ça veut dire que l'ange qui venait, qui agitait là, c'était pas un ange de Dieu. C'était un mensonge que les gens avaient dans la tête, ou peut-être c'était un démon qui venait agiter cette eau, mais c'était certainement pas un ange de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle on sait que c'était pas la volonté de Dieu de guérir de cette façon, c'est que Jésus ne l'a pas pris pour aller le mettre dans l'eau. Il a juste dit, lève-toi et prends ton lit. Pour montrer que sa méthode est complètement en contraste avec ce qu'ils avaient dans leur tête. Quand Jésus approuve quelque chose, il coopère avec la chose qu'il approuve. Par exemple, vous pouvez trouver un moment où il guérit les lépreux, puis il dit, va vers les sacrificateurs pour prouver que tu es vraiment guéri. Donc, en le faisant aller là, c'est comme s'il manifeste qu'il approuve le système du sanctuaire, de comment est-ce qu'on devait observer si quelqu'un avait la lèpre ou si quelqu'un était guéri de la lèpre. Il manifestait son approbation. Mais là, il n'a rien dit par rapport à cette histoire. On vous raconte juste comment, ce que les gens pensaient, puis Jésus arrive, puis dit, lève-toi. C'est tout. Il n'a pas traîné, donc, rien. Parce que ça n'a rien à voir avec la façon dont lui, il opère. L'autre chose qui est intéressante, c'est comment s'appelait le lieu. Au verset 2, c'est écrit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu quoi ?»« Bethesda. » Et qui a 5 portiques. Bethesda, ça signifie, parce que là on dit c'est en hébreu, Bethesda, ça signifie « maison de la miséricorde ». Ou, en grec, ça signifie « maison de la grâce ». Donc c'est la maison de la miséricorde, c'est la maison de la grâce de Dieu. Quand les gens viennent à l'église, Dieu aimerait que ce soit une maison de miséricorde ou une maison de la grâce de Dieu. Où les gens peuvent venir et puis trouver la guérison. Pas la guérison dans des superstitions, dans des mensonges que les gens ont, mais la guérison avec le vrai personnage qui est Jésus-Christ. C'est là une illustration de ce que Dieu veut pour son église. Maintenant, la personne était malade, n'est-ce pas? Et elle est venue. Et souvent on dit que lorsque les gens viennent à l'église, il ne faut pas qu'ils se plaignent trop de ce qu'ils voient, ou ceux qui sont là depuis longtemps, il ne faut pas qu'ils se plaignent trop de ce qu'ils voient, parce que l'église c'est comme un grand hôpital, les gens sont malades. N'est-ce pas? Souvent j'entends ça, l'église c'est comme un grand hôpital, les gens sont malades. Mais c'est peut-être vrai qu'il ne faut pas toujours trop se plaindre, parce que les gens ne sont pas parfaits. Mais si on va dans la même analogie que c'est comme un grand hôpital, ben dans l'hôpital, il n'y a pas juste des malades, il y a aussi le personnel soignant. Tout le monde ne peut pas être malade, sinon on a un problème. Et quand on va à l'hôpital, qu'on est malade, c'est dans le but d'être guéri et de sortir de l'hôpital, n'est-ce pas? C'est pas dans le but d'aller malade et de rester malade jusqu'à la mort. Le but, c'est de guérir. Donc oui, l'église est comme un hôpital, mais parfois il y en a qui prolongent trop leur maladie. Lorsqu'il y a des épidémies, les gens ont des problèmes parce que ce qui fait qu'une épidémie est dangereuse, parce que les gens sont malades tous les jours, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal, mais ça ne fait pas la une des journaux. Ce qui fait la une des journaux, c'est l'Ebola. Pourquoi ça fait la une des journaux? Parce que la maladie n'est pas maîtrisée. Les malades viennent. Et un bon pourcentage des personnes qui meurent, c'est le personnel soignant. Donc pour l'Ebola, si je ne me trompe pas, c'est entre 10 et 15% des gens qui meurent de l'Ebola en ce moment, c'est le personnel soignant. C'est-à-dire qu'en soignant les gens, ils contractent la maladie et ils meurent eux aussi. C'est là qu'on est dans la catastrophe. Et à certaines épidémies où c'était pire, ça montait jusqu'à 50%. Alors quand on vous disait qu'il y a telle épidémie dans tel pays, et qu'il y a, je crois moi, 100 000 morts, ben sur les 100 000 morts, vous avez 50 000 personnes qui essayaient de soigner les autres et qui sont morts avec. C'est pour ça que les épidémies font peur, c'est parce que même ceux qui soignent meurent, partent avec. Mais l'Église, la volonté de Dieu dans l'Église, c'est que oui, on rentre malade de tous nos péchés et tout, mais les autres qui sont là depuis longtemps sont supposés être du personnel soignant en forme pour soigner les autres, pour qu'eux soient en forme aussi, puis on soigne les nouveaux qui rentrent à chaque fois. Mais si tout le monde est malade, oh, c'est l'église, c'est normal, je suis malade. 30 ans, les mêmes choses, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça doit être la maison de miséricorde, oui, la maison de la grâce de Dieu, oui, mais c'est aussi la maison de la guérison en Jésus. C'est ça que doit être l'Église. Il y avait quatre types de personnes, on a dit, dans cet environnement, la piscine de Bethesda. Il y avait les malades, il y avait les aveugles, il y avait les boiteux, il y avait les paralytiques. Pour les malades, on vient d'en parler en faisant plusieurs parallèles. Les aveugles, c'est ceux qui sont là dans le corps de l'Église, mais qui ne voient pas, qui ont un discernement spirituel, un discernement du péché très pauvre. Par exemple, Jésus, il parlait aux pharisiens, il dit « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Ça, c'est Jean 9, verset 41. Donc, il y en a qui sont là, et les gens pêchent, ils ne voient rien, eux-mêmes pêchent et ne voient rien. Donc, ce ne sont pas des gens qui peuvent guider les autres. Parce que ça contamine l'Église et ils peuvent pas lancer l'alarme. Ça, ce sont les aveugles qui sont dans l'Église, la maison de miséricorde, la maison de grâce. Il y a aussi les boiteux. Ce sont ceux qui essayent de marcher à Dieu, font des efforts et tout, mais ils marchent croche, n'est-ce pas? Donc, tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais, tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais. Ils n'ont pas de constance. Ça fait qu'ils ne peuvent pas non plus s'aider eux-mêmes et aider les autres, parce que lorsque tu n'es pas constant dans ta marche, tu perds ta crédibilité. Tu n'as pas d'impact. Dieu ne peut pas t'utiliser pour être une source de guérison, pour être une source d'inspiration pour les autres. Parce que c'est tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. On dirait que c'est une chance. Et finalement, il y a les paralytiques. C'est ceux qui sont là, qui sont de bonnes personnes selon la société. C'est-à-dire, tu as rien de vraiment à reprocher à la personne. La personne vient là, paye sa dîme, paye ses offrandes et est en conflit avec personne. Mais la personne est paralysée spirituellement, elle ne produit aucun fruit. Tu ne la vois pas jamais emmener une âme à Christ. Tu ne la vois jamais s'améliorer. C'est comme si elle stagne. Je présente Daniel chapitre 2 aujourd'hui. La personne est émerveillée parce qu'on dirait qu'elle n'a jamais entendu ça. Dans 5 ans, je présente Daniel chapitre 2. La personne est encore émerveillée parce qu'on dirait qu'elle n'a jamais entendu ça. Elle ne progresse pas spirituellement. Ce sont des paralytiques dans l'Église. On est là, le temps passe, aucun progrès, rien qui change. Mais on a l'air, on n'a rien à vous reprocher de grave, mais c'est juste que vous ne produisez aucun fruit. Et on a besoin de Dieu pour remettre la vie en nous. Donc, c'est Dieu seul qui guérit. Dans Actes chapitre 9, verset 34, c'est que Pierre lui dit, aîné Jésus-Christ, tu guéris, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva, lorsque les disciples ont été en mesure de performer les mêmes choses que Jésus lui-même. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 23, c'est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, encore une fois les trois aspects ici, l'esprit mental, l'âme, le spirituel et le corps physique, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons complètement, que nous soyons parfaitement développés, parfaitement en santé. La foi, heureusement, de nous peut performer, mais la foi des autres aussi peut nous aider. Vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus était sur une barque, il est arrivé quelque part, on lui a emmené un paralytique, et puis on a dit, Jésus, voyant leur foi, il a guéri le paralytique. Donc parfois, quand même, nous-mêmes, on ne peut pas manifester cette foi. Si quelqu'un d'autre manifeste cette foi, Dieu peut en tenir compte pour nous guérir. Et il y a eu la même chose qui s'est produite lorsqu'on lui a emmené un autre paralytique. Il était en train de prêcher dans une maison. Les gens ne voyaient pas où faire amener le paralytique. Ils ont enlevé les tuiles sur le toit. Ils l'ont fait descendre. Et là, on dit, Jésus, voyant leur foi, pas la foi du paralytique, voyant leur foi. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Il a pardonné le paralytique et il l'a guéri physiquement. Donc la foi, la nôtre, ou celle de quelqu'un qui prie pour nous, peut nous sauver, peut nous guérir. C'est pour ça que beaucoup de prédicateurs que j'entends, la majorité ont des témoignages rocambolesques, et souvent ils disent « Je suis le produit de les prières de ma mère, parce que je faisais ci, je faisais ça, et finalement, les prières de ma mère ont été exaucées, voici, je suis devant vous, et je prêche, etc. » Moi, je suis le produit des prières de ma mère, mais je suis le produit des prières des frères que j'ai rencontrés en France et qui ont prié pour que Parce que quand je les ai quittés, je n'étais pas baptisé, pour que je continue dans le message chrétien et que je l'accepte, ce que je fais ici au Canada. Donc la foi des autres peut vous guérir. Et puis là, on parle des trois aspects, physique, mental, spirituel. Plusieurs fois aussi, vous avez prié pour des gens malades et Dieu fait des miracles. À GYC, il y avait un des organisateurs de GYC qui, à un moment donné, était complètement paralysé. Tout le monde s'était mis en prière. Il a été guéri, puis les médecins n'arrivent pas à expliquer comment c'est arrivé. La prière fait vraiment des miracles au niveau de la guérison même. Et si ce n'est pas votre foi, ça peut être la foi de quelqu'un d'autre. Maintenant, on a parlé un peu de mental et puis de physique et de spirituel. Maintenant, j'aimerais mettre un peu l'accent sur la partie mentale qui est importante dans la guérison. Allez dans Matthieu chapitre 14 et verset 27. Matthieu chapitre 14 et le verset 27. Matthieu 14, verset 27, c'est écrit: Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi. Ensuite, il dit quoi? N'ayez pas peur. La peur là, ça peut être un gros facteur qui fait en sorte qu'on est bloqué puis on ne peut pas avancer dans beaucoup de choses, spirituellement parlant, et même pour avoir la guérison. Là, ils ont eu peur. Jésus a dû les rassurer que c'était lui et qu'ils ne devaient pas avoir peur. Souvent, quand les anges se manifestent devant un serviteur de Dieu, il dit n'aie pas peur, pas de crainte. Chaque fois, Dieu doit rappeler cela. Parce que lorsque la peur nous domine, ça peut faire en sorte qu'on manque le mandat. L'exemple de Saül et David. Saül, c'était le roi. C'était lui qui devait aller tuer Goliath. Mais il a envoyé un petit jeune, David. Mais normalement, c'était au roi de faire ce travail, parce que le roi avait peur. Mais David n'avait pas peur. Celui qui a peur, il voit Dieu à travers ses problèmes. Donc il est là, il y a ses problèmes, puis il voit Dieu derrière. Mais celui qui a la confiance en Dieu, il voit ses problèmes à travers Dieu. Donc il est là, il y a Dieu, puis il y a ses problèmes derrière. Donc Saül, il voyait Goliath, qui était un gros problème, dans les deux sens du terme, c'était un gros problème. Mais il le voyait à travers sa peur. Donc, vu que Goliath est tellement énorme, je me demande qu'est-ce que Dieu peut faire. Et David, au contraire, dans sa confiance, il voyait le gros problème, mais il voyait Dieu d'abord et ensuite Goliath. C'est pour ça qu'il a pu aller vers lui, dans 1 Samuel 17, verset 45, il lui a dit: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et puis il a lancé la pierre et tout, vous connaissez l'histoire. Donc la façon dont nous nous sentons mentalement là, c'est vraiment important dans la relation. Donc comment est-ce que Dieu va opérer une guérison ou non? Dans 2 Timothée 1, verset 7, c'est écrit: Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et 1 Jean 4, verset 18, dit: La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc là, je suis allé vite, mais maintenant j'aimerais vous aller dans un verset spécialement qui est Jean chapitre 6, verset 51, et je vais vous présenter le sandwich de la vie chrétienne. Oui, le sandwich de la vie chrétienne. C'est quoi que vous aimez comme sandwich? Sandwich aux avocats? C'est quoi d'autre que vous aimez comme sandwich? Sandwich au poulet? Sandwich au tofu? Sandwich au Nutella? Là, je vous demande ça pour savoir s'il faut faire plus de présentations sur la santé. Mais dans un sandwich, il y a basiquement trois éléments, n'est-ce pas? Un pain, un autre pain, puis au milieu, ce que l'on aime. Donc ça peut être avocat, tofu, puis les autres, je n'ai pas entendu. Donc, dans Jean chapitre 6 et le verset 51, on voit le sandwich de la vie chrétienne. Trois éléments. Rappelez, Jésus dit: Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, n'est-ce pas? Donc, on va voir, est-ce qu'on est capable de manger ce sandwich? Le sandwich de la vie chrétienne. Donc, on est dans, je vous ai dit, Jean 6, Maintenant, Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16 et le verset 33. C'est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, premier aspect, première couche du sandwich. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Et dans la paix, on l'a comment? En moi. Jésus dit, je veux que vous ayez la paix en moi. Ça, c'est primordial. Ça, c'est le numéro un. Ça, c'est la base de la foi. Ça, c'est, je ne sais pas quel autre qualificatif trouver, mais toute la vie chrétienne tourne autour de ça. Que vous ayez la paix en moi. Parce qu'on a tendance à trouver la paix en autre chose que lui. Donc on cherche la paix dans la magnifique carrière qu'on s'est assurée. On cherche la paix dans notre compte en banque. On cherche la paix dans notre époux ou épouse. On cherche la paix dans beaucoup d'autres choses que Dieu. Ou parfois Dieu est là, mais c'est seulement quand il y a quelque chose de vraiment terrible qu'on se rend compte si notre paix est en lui ou pas. Donc Dieu veut s'assurer que notre paix est au bon endroit. Et je vous ai donné un exemple à travers une des institutions que Dieu a sorties du Jardin d'Éden, qui a traversé le péché, c'est l'institution du mariage. Rappelez, Adam était avec Dieu, et Ève a été créée par la suite. Mais pour créer Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a endormi Adam, n'est-ce pas? Pourquoi il a endormi Adam? Parce que Dieu, c'est Dieu, n'est-ce pas? On voit à partir de Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? Donc, Adam aurait pu être là et puis dire, Ève, sors. Puis là, ça coûte, puis Ève est là tout de suite. C'est Dieu, non? Il aurait pu faire ça. Pourquoi il a endormi Adam? Pardon? Pardon? Adam n'a pas été créé par la parole? Oui, c'est vrai, Adam n'a pas été créé par la parole. Parce qu'il est un chirurgien? Ok. Ok, voilà, oui, c'est vrai. Mais exemple, aujourd'hui, on fait des anesthésies, on peut vous opérer localement, n'est-ce pas? Et puis vous êtes conscient. Vous n'êtes pas obligé d'être en train de dormir. Donc, on aurait pu. On ne peut pas dire que les médecins d'aujourd'hui sont plus performants que lui. Donc, il aurait pu faire une chirurgie locale. Tirer la côte, tu vois, la côte Adam, c'est avec ça que je veux créer Ève. Puis créer Ève et puis refermer et tout. Mais il a endormi complètement. Bon, il y a deux raisons que je vois à cela. La première raison, c'est que, apparemment, Dieu n'a pas donné à Adam Ève tout de suite, n'est-ce pas? Adam, il a été créé, façonné des mains de Dieu, comme la sœur a dit, Dieu n'a pas créé l'homme ni la femme par la parole. Et ça, c'est une différence avec toutes les autres choses qu'il a créées. Et Adam a développé une relation avec Dieu d'abord. Et ensuite, lorsque cette relation avec Dieu était solide, il l'a fait s'endormir pour créer Ève. L'une des choses que Dieu a montré, c'est que l'homme, Adam n'a aucunement participé au choix de la femme que Dieu devait lui donner. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme s'il a dit, oh, je veux une femme comme ci, je veux une femme comme ça, je veux qu'elle ait un doctorat, je veux qu'elle soit haute comme ça, je veux que les seins soient comme ça. Il n'y avait rien de ça. C'est je dors, puis lorsque j'ouvre les yeux, elle est là. Donc c'est Dieu qui s'occupait de ça. Ça veut dire qu'Adam, il était dans une relation avec Dieu tellement intime, tellement sa paix en lui, qu'il a confié tout cela à Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu l'a endormi. Ça symbolise cette confiance totale dans son Créateur. Et effectivement, quand Ève est venue, il a dit, oh, voici chair de ma chair, il s'est exclamé et tout. On voit que Dieu ne fait pas d'erreur. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il a endormi Adam, c'était pour que lorsqu'il a fini de créer Ève, c'était pour que Ève, elle aussi, ait le temps de développer une relation avec Dieu pendant que Adam dort. Donc, c'est pas réveillé, puis tout de suite, Adam, ton mari, non, non. Dieu a pris du temps avec Ève. Et elle a eu ce même temps que lui, que Adam avait eu auparavant. La paix d'Ève était en Dieu et non en son mari. Et une fois que cela était établi, maintenant, Il a réveillé Adam, puis il a emmené Ève vers Adam. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, même dans l'institution du mariage, veut que les personnes qui arrivent pour former une seule chair, chacun de son côté, ont bâti leur paix en Dieu. Chacun de son côté a appris à être heureux seul. Et non pas, j'attends de marier telle personne pour être heureux. Non, je suis heureux seul, j'ai ma paix en Dieu, et ensuite, Dieu unit les personnes. Donc ça, c'est un exemple du mariage, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Mais cette paix en Dieu, c'est vraiment important. C'est le premier sandwich de la vie chrétienne. On s'assure que tout soit basé sur Dieu, et non sur une carrière ou sur quelqu'un. L'autre aspect, c'est... Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une promesse, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit, donc c'est sûr que ça va arriver. C'est une promesse. Mais ce n'est pas le genre de promesse qu'on réclame, n'est-ce pas? C'est quand on dit prier à Dieu pour réclamer ses promesses, on ne réclame pas cette promesse-là. Parce qu'aucun de nous veut des tribulations. Mais c'est sûr que ça va arriver. Par contre, là où notre mental est important, c'est lorsque ces tribulations arrivent, qu'on ne fasse pas l'erreur de développer les mauvaises choses. C'est-à-dire développer l'amertume, développer, dire Dieu, pourquoi est-ce que cette chose m'est arrivée, et de développer l'anxiété. Ce sont toutes des choses qui font que notre mental n'est pas bon et notre physique va en souffrir. Dieu veut que notre attitude soit parfaite, peu importe les circonstances. C'est pour ça qu'il permet les tribulations. Donc la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la paix en Dieu. En disant dans ce monde de péché, par-dessus, ensuite au milieu, il y a les tribulations, mais la dernière couche, c'est encore Dieu, lorsqu'il conclut en disant, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc comme on sait que lui, il a vaincu, on a sa paix en lui, lui, il a vaincu, dans les tribulations qui sont dedans, elles vont s'étouffer alors que l'on mange le sandwich. La vraie paix, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est l'assurance de les surmonter avec la puissance de Jésus-Christ. C'est ça la vraie paix. Dans le livre Le ministère de la guérison, page 207, paragraphe 1, elle donne le rapport qu'il y a entre le mental et le physique. Parce que pour être guéri, comme on dit depuis le début, nous sommes trois choses, mental, physique et spirituel. Le mental est très important pour notre santé. Elle dit, les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Donc, l'exemple simple, si je marche et puis je me frappe, je me cogne le pied comme quelque part, c'est quelque chose de physique. Mais il y a quelque chose de mental qui va se produire parce que mon cerveau va être au courant que je me suis fait mal et que pour manifester ma douleur, il y a un cri qui va se faire au niveau de ma bouche et le cerveau va lancer le signal à la main d'attraper l'orteil pour soulager la douleur. Donc là, c'est un exemple simple, mais c'est bon qu'il y a un lien entre le mental et le physique toujours. Si on est toujours pessimiste, si on est toujours en train de penser des mauvaises choses, des pensées très négatives, ça peut affecter notre santé. Je continue la citation. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. À chaque fois qu'on se sent fâché, chaque fois qu'on est anxieux, chaque fois qu'on est mécontent, chaque fois qu'on sent du remords, à chaque fois qu'on n'a pas confiance en Dieu, c'est chose qui peut affecter notre santé. L'ingratitude a fait en sorte que les Israélites ont rejeté Dieu dans le désert. Bien qu'il ait ouvert la mer rouge, qu'il ait mis les 10 plaies, l'ingratitude. Pourquoi tu nous fais tout ça et tu nous donnes à manger de la manne? C'est inacceptable, selon eux. Le mécontentement a fait en sorte que Lucifer a été expulsé du ciel. Parce qu'il dit ça, pourquoi être numéro 2 quand je peux être numéro 1? Encore une fois, selon lui, c'est une distorsion mentale qui pousse les personnes à penser comme ça. Et une recherche qu'ils ont fait intéressante, c'est que souvent on peut être colérique ou manifester de la colère. Une minute de colère peut faire en sorte que notre système immunitaire est éteint pendant 6 heures. Donc vous fâchez là intensément pendant une minute. Puis là, votre système immunitaire se met sur off pendant 6 heures. Donc c'est 6 heures où la maladie peut rentrer facilement, vous me suivez? Mais si vous êtes quelqu'un qui se met souvent en colère, ben ça fait qu'il y a la maladie en des grandes plages horaires pour se présenter dans votre corps. De telle heure à telle heure se met en colère, ça fait que le matin que les enfants sont toujours en colère, ça fait qu'on a de 8 heures jusqu'à 14 heures pour rentrer. Mais si c'est comme ça, tous les jours, il y a de grandes chances que vous tombiez malade. Comment on est dans notre mental, c'est très important, ça affecte notre corps. J'ai été en contact avec le message de la santé pour la première fois lorsque j'étais en France, dans un coin qui s'appelle le Mas Perdu, où ils pratiquaient ces choses, la guérison à tous les niveaux. C'est un lieu retiré dans la campagne que détenaient des adventistes du septième jour. Ils pratiquaient l'agriculture biologique et ils sont encore là d'ailleurs, le site existe toujours. Il y a des médecins ou des gens du personnel de la santé qui viennent à différentes périodes pour que les gens suivent toutes sortes de cures. Ils pratiquent le plan de 5 jours pour aider les gens à arrêter de fumer. Et donc ils essaient aux gens de guérir sur les 3 aspects, mental, physique et spirituel. Il y a des présentations bibliques, etc. Il y a le tout. Ça, c'était mon premier contact avec le message de la santé. La nourriture est végétarienne, etc. Mais c'est pas là-bas que je me suis mis à tout appliquer. C'est juste quand j'allais les visiter, ben je mangeais comme eux parce que c'est ça qu'il y avait comme nourriture. Mais arrivé ici, en 2006, la Fédération du Québec, à travers Pasteur Youth, a fait venir un homme ici qui s'appelle Dr. Thomas Jackson. C'est un homme qui a un ministère qui s'appelle Meat Ministry aux États-Unis et qui est basé sur le même modèle que ce que j'avais vu en France. Mais eux, c'est, en plus de ça, ils ont le volet école, donc les gens peuvent venir là pour apprendre des choses, etc. La Fédération du Québec a fait des efforts pour que, parce que non seulement ils présentaient, mais il y avait du matériel qui était présenté et tout, il y avait des denrées alimentaires qui étaient distribuées, mais tout ça était gratuit pendant 3 semaines, pour vous donner des échantillons, des exemples. Et je suis allé là et j'ai écouté les présentations. Et faisait des quiz à la fin de chaque présentation pour voir si vous avez bien compris la présentation de la journée d'avant. Et je répondais aux quiz, mais je n'ai pas pu être là la dernière semaine. Donc sur les 3 semaines, j'ai fait juste 2 semaines parce que la dernière semaine, je devais aller à Toronto pour apprendre l'anglais. Et ça a marché parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux prêcher en anglais. Ça fait que je suis allé à Toronto la dernière semaine et donc je n'ai pas pu répondre aux questions. Moi, j'étais vraiment motivé là. Parce qu'ils avaient dit les prix qu'on devait gagner et tout. Et au retour, une de mes amies dit, ils ont... Donc c'était pas un tirage au sort, là, c'était vraiment ceux qui avaient le plus de points. Et elle m'a dit, c'est toi qui as gagné le premier prix. Alors que j'avais pas eu le temps de répondre la dernière semaine. J'avais gagné un gros livre avec toutes sortes de recettes que son ministère avait développées, etc. Et je me suis dit, bon ben, je pense que Dieu veut vraiment, vraiment que je sois végétarien. Puis ensuite végétarien, puis c'est là que j'ai commencé à appliquer ce message, en étant végétarien d'abord, puis ensuite en transitant, en éliminant les autres produits de source animale. Mais ce docteur Jackson, il donnait des témoignages vraiment extraordinaires, témoignages de fous, qui disaient, c'est pas possible, comment on peut guérir de ces choses-là? Des gens qui allaient là, puis qui avaient le sida, et qui ressortaient là sans le sida. Parce que vous savez, dans le monde scientifique, c'est la science, donc c'est proportionnellement à ce que les hommes savent. Donc tous les dossiers qu'ils savent, ils font des statistiques et tout avec. Mais lorsqu'il y a des cas de miracles, comme beaucoup de gens croyants qui sont guéris miraculeusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire, ok, c'est un miracle, mais ils vont mettre le cas de côté. C'est comme un dossier, comme la police, on cherche quelqu'un, on ne l'a jamais retrouvé, on classe le dossier. Donc ça ne rentre pas forcément dans toutes les statistiques. C'est comme si ça n'existe pas, mais ça existe. C'est juste qu'ils disent, bon, on n'arrive pas à expliquer. Donc au lieu de faire semblant de le ranger quelque part, on fait juste le mettre à part. Ça a été le cas de beaucoup de personnes passées là. Puis il a donné un témoignage qui m'a frappé, que je conclue avec ça. Ce qu'il a dit, qu'il y a une dame qui était venue à son ministère et puis qui avait un problème au niveau du foie. Continuellement, elle avait ce problème depuis une trentaine d'années, un peu comme le malade qu'on a vu dans Jean chapitre 5. Et elle est venue au ministère, Meet Ministry, elle a suivi tout ce qu'il donnait comme conseil, et elle a été guérie de son problème au foie. Ensuite, elle est retournée chez elle, puis ça a recommencé. Malgré qu'elle suivait les principes chez elle, ça a recommencé. Elle est revenue. Ils ont refait les choses. Elle est encore guérie. Elle retourne chez elle. Puis là, ça s'est passé à plusieurs reprises. C'est vrai, il vient. À chaque fois qu'elle était là, présente, elle était guérie. Mais quand elle est retournée chez elle, elle retournait malade. Et il se demandait pourquoi. Parce que lui, Dieu l'a appelé à ce ministère de toucher les gens par la santé. Donc il priait Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame. Pourquoi elle est guérie, mais on dirait que non. Et c'était une confusion pour lui. Et pendant qu'il priait, Dieu l'a guidé dans la parole, et puis Dieu l'a emmené sur des textes qui parlaient de colère, d'anxiété, de rage, de manque de pardon. Puis il est allé parler à la dame, puis il a dit « Ma sœur, est-ce que c'est possible que tu as des problèmes d'anxiété, est-ce qu'il y a quelque chose qui te trouble, qui fait que, je ne sais pas moi, dans ta vie ?» Et là, la personne s'est vraiment sentie touchée, comment la personne sait ça, s'est mise à pleurer, etc. Puis, elle a ouvert son cœur à lui et lui a expliqué ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'est quelqu'un qui avait subi des attouchements, des agressions plus jeunes par des membres de sa famille. Et qui, peut-être dans, je ne sais pas comment s'est passé dans ses choix, a fini par épouser quelqu'un qui était pareil comme son agresseur. Donc elle a souffert avant le mariage, elle a souffert dans le mariage de la même chose. Puis là, ça faisait des dizaines d'années là-dedans. Donc elle avait énormément de haine envers le parent qui avait fait ça, et énormément de haine aussi envers son mari. C'est pour ça que quand elle venait au ministère, elle guérissait parce qu'elle est coupée de ces personnes-là, donc elle n'est pas en contact. Donc oui, elle mange bien, elle fait toutes ces choses, mais comme elle ne voit pas ces personnes, ça, c'est pas nourri, donc elle est guérie. Mais lorsqu'elle retourne, elle continue de bien manger, mais comme elle voit son mari tous les jours, la haine est là, et ça, c'est pour ça que la maladie reprend du terrain. Donc ils ont prié ensemble pour dire à la sœur, il faut que tu pardonnes. Parce que c'est le seul, le dernier élément qui reste. Vous voyez, elle avait appliqué tout le reste, mais c'était mental maintenant que ça se passait. C'est au niveau mental. Et lorsqu'elle a, par la grâce de Dieu, accepté de pardonner, c'est là qu'elle a pu retourner chez elle et être guérie chez elle. Donc on ne sait pas, chacun nous vivons des situations différentes, peut-être certaines plus graves que d'autres, c'est comment nous le vivons qui détermine si c'est grave ou pas. Hein. Quelqu'un ne peut pas le dire pour vous. Mais Dieu comprend tout. Mais l'essentiel que nous devons comprendre là-dedans, c'est que cet aspect n'est pas à négliger dans la guérison. On ne peut pas juste bien manger, juste bien boire, juste faire de l'exercice, même si toutes ces choses sont excellentes. Mais il faut appliquer, il faut se souvenir que nous sommes un être complet, mental, physique et spirituel, et développer les trois pour être sûr d'avoir la guérison. Et si malgré tout ça, on ne l'a pas, Dieu se le sait dans sa volonté. Mais je pense que sa volonté, c'est que nous soyons guéris. Et comme un pasteur l'a dit tristement, sa volonté, c'est que l'on vive. Que nous soyons guéris. La question, c'est est-ce qu'on va être guéris maintenant ou est-ce qu'on va être guéris au retour de Jésus-Christ? Mais sa volonté, c'est toujours que nous soyons guéris. Donc, sur ces paroles, nous allons prier pour clôturer la méditation de ce soir. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons couper la tête pour prier avant de chanter le dernier chant. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour les principes simples que tu mets dans ta parole afin que nous puissions pratiquer ces choses et être guéris, avoir l'assurance que nous serons guéris en toi. Seigneur, chacun vit des situations particulières, chacun a des aspects du message de la santé à développer plus que d'autres, mais l'essentiel c'est de progresser, Seigneur. Car lorsque nous faisons notre part, qui est infime, ça te permet à toi de faire des miracles qui sont très grands. Donc aide-nous à mêler notre volonté à la tienne pour que nous voyons ces miracles s'accomplir dans notre vie et que nous soyons émerveillés de comment tu as été bon envers nous. Que l'Église soit vraiment une maison de miséricorde, une maison de grâce, mais aussi une maison de guérison. Que les gens voient que l'on guérit ici pour que eux aient l'espoir de guérir et que ces mêmes personnes, une fois guéries, aident d'autres à guérir également. C'est ma prière pour chacune des personnes ici présentes. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.